Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. C'est un plaisir de vous retrouver sur Médium pour une nouvelle saison. Comme d'habitude, nous mettons pleinement le cap sur le renforcement des relations économiques entre pays africains, notamment entre le Maroc et ses partenaires du continent. Et pour ce premier numéro de la saison, nous parlons de la valorisation des ressources minières en Afrique, comment faire de ce secteur un levier d'industrialisation des économies africaines. L'ingénieur civil des mines et ingénieur en propulsion aéronautique, Cher Cissé, auteur d'un ouvrage sur la question, sera avec nous. Il est notre invité, vous l'entendrez dans quelques instants. Toujours en parlant des ressources naturelles, comment les pays africains peuvent-ils réussir à renégocier les contrats d'exploitation de leurs ressources naturelles? Le sujet est revenu à l'ordre du jour. Le Sénégal a récemment mis en place une commission pour renégocier les contrats portant notamment sur les ressources naturelles. On en parle dans Coémergence. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Mais avant cela, faisons le point sur l'essentiel de l'actualité économique de la semaine. Et c'est bien évidemment le sommet Chine-Afrique qui vient de se tenir à Pékin qui domine ces échos de la semaine. Pékin promet de débloquer 50 milliards de dollars en faveur des pays africains au cours des trois prochaines années. Sur ce qu'il faut retenir de ce sommet, écoutons l'analyse du spécialiste de l'Afrique, Arine Zouzi.
Bon, d'abord, du côté chinois, rien de nouveau sous le soleil. C'est de renforcer, bien évidemment, la position de la Chine sur le continent, tout en multipliant, bien évidemment, je dirais, et en diversifiant les sources d'approvisionnement en termes de matières premières. Il s'agit aussi et surtout, évidemment, de renforcer une position qui se veut dominante. On a donné les chiffres pour le premier semestre 2024. Ce sont des chiffres sans appel et qui montrent bien l'intérêt croissant de la Chine pour l'Afrique, en dépit du fait que ces deux dernières années, le niveau d'engagement de la Chine a fortement baissé, compte tenu évidemment du ralentissement de sa croissance et du contexte économique. Du côté africain, à l'inverse, je pense que l'objectif principal, c'est d'abord de mettre en avant l'intérêt des pays, même si c'est vrai, chacun y va un peu, je dirais, en solo, mais l'objectif le plus important étant évidemment de négocier davantage d'investissements pour la mise en œuvre de chaînes de valeur, mais surtout la création d'industries de transformation, parce que ça reste encore le talon d'Achille du continent africain en matière première.
Zoom Express.
Comment les pays africains peuvent-ils réussir à renégocier les contrats d'exploitation de leurs ressources naturelles? Le sujet est revenu à l'ordre du jour, notamment depuis l'élection au Sénégal de Bassirou Diomaye Faye, qui en fait une priorité. On en parle donc dans Coémergence. Je vous propose d'abord d'écouter Paul Francis Nathanaël Tonier, juriste conseil, expert en droit des ressources naturelles.
Vous savez, la crise de 2014 et partant celle liée à la pandémie du Covid-19 ont eu une influence négative sur les cours du pétrole, ayant pour corollaire la baisse des budgets d'exploration des majors qui peuplent le continent, les dépôts de bilan ou rachats des sociétés affaiblis. Et finalement, l'entrée en scène des juniors étatiques tels que Qatar Petroleum, aux côtés des majors sur des puits parmi les plus prévisionnels. 2021 a été un nouveau point de départ pour le secteur et des hydrocarbures, malgré la mauvaise passe de 2020 avec la dégringolade de la demande et la morosité des cours. Mais seulement pour attirer davantage les sociétés transnationales, certains États hôtes envisagent d'ailleurs de réviser les lois sur les hydrocarbures dites de quatrième génération. Mais le tout n'est pas de les réviser. Il faut surtout les respecter, les mettre en pratique et faire preuve d'une bonne gouvernance extractive.
Les acteurs africains entendent se positionner et tirer leur épingle du jeu dans ce secteur très capitalistique et lourd en investissement. En ont-ils les moyens face aux majors? Écoutons à nouveau les explications de Paul Francis Nathanaël Tounier.
Naturellement, à côté des majors qui monopolisent quasiment tout, nous avons les États eux-mêmes qui peuvent intervenir, qui interviennent directement par le biais du gouvernement ou par le ministre de tutelle dans la signature des conventions pétrolières avec les co-contractants. Nous avons aussi des exploitants étatiques locaux, autrement appelés les compagnies nationales, la capitale publique ou les juniors, qui essaient tant bien que mal de gérer la production pétrolière et défendre les intérêts nationaux. Mais à vrai dire, pour financer leurs projets, ces compagnies sont largement dépendantes des financements extérieurs, FMI, Banque mondiale et j'en passe. D'ailleurs, elles se heurtent à la chute des matières premières. Je peux citer quelques-unes d'elles, l'Algérienne Sonatrach, l'Angolaise Sonangol et la Nigerian National Petroleum Corporation. Mais ces sociétés sont très loin du standard des compagnies pétrolières telles que le brésilien Petrobras ou du norvégien Statoil. Nous avons enfin les sociétés indépendantes qui, par leur petite taille, se contentent des opportunités qui n'intéressent plus ou qui n'intéressent pas les majors et les juniors.
Merci à vous, Paul Francis Nathanaël Tonnier. Je rappelle que vous êtes juriste conseil et expert en droit des ressources naturelles. Place à présent à Adam Awad, directeur de publication du Financial Afrique, que nous avons reçu ici il y a quelques semaines. Alors, Adam Awad, que pensez-vous de cette question de renégociation des ressources naturelles si on prend le cas du Sénégal?
Je vous rappelle que le Sénégal est à quelques mois de la première exportation du mètre cube de gaz. Donc, ce sont des challenges. Ce sont des challenges si on l'en s'en tient, ne serait-ce que sur le contrat de pétrole et gaz. Vous savez que les interlocuteurs, les partenaires privés ont pour nom BP, qui est peut-être le plus grand conglomérat dans ce domaine et qui est une compagnie britannique très connue. Vous avez aussi d'autres compagnies comme Kosmos. Woodside aussi. Donc, je pense que la révision des contrats, c'est une chose très sérieuse qui peut peut-être s'avérer nécessaire hein, si on constatait des irrégularités manifestes. Mais de prime abord, je dirais que peut-être c'est dans un premier temps, il faudrait déjà y aller avec un audit qui serait le bienvenu, un audit de tous les contrats. En diligenté par l'État, ne serait-ce que pour avoir un état des lieux par rapport aux gestions passées.
Merci à vous, Adam Awad, directeur de publication de Financial Afrique. Alors, un autre Adama qui s'intéresse aussi à la question, il s'agit de Adama Gueye, il est lui aussi expert dans le domaine donc de l'exploitation des ressources naturelles. Il est très actif dans ce domaine. Nous avons eu un entretien avec lui sur la question. Je vous propose de l'écouter. Adama Gueye, comment réussir une transformation structurelle de nos économies avec nos ressources énergétiques fossiles?
Mais en agissant sur plusieurs leviers, bien évidemment. D'une part, les ressources pétrole et gaz peuvent rapporter des devises aux pays africains, mais pendant que ces devises arrivent, il faut former des élites, il faut développer l'éducation, il faut développer la santé, il faut développer le tourisme, il faut œuvrer à promouvoir les ressources renouvelables dont disposent les pays africains en abondance, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolienne, que ce soit l'énergie géothermale, que ce soit l'énergie marine, tout cela, l'Afrique en dispose en quantité. Donc il faut préparer l'avenir en misant sur les ressources dont on dispose aujourd'hui, que le pétrole et le gaz pour nous rapporter. Mais en comprenant aussi qu'il y a une tendance lourde qui est en train de se développer, à savoir que le monde, en raison du réchauffement climatique, est obligé de réduire son exposition aux énergies fossiles, que progressivement les pays qui importaient des énergies fossiles vont s'en passer pour éviter de participer au réchauffement climatique et pour aller vers la décarbonation de leur économie.
Effectivement, c'est ça. La transition est toute trouvée. Vous l'avez bien trouvée. Vous parlez de décarbonation. Cela nous conduit à parler du deuxième axe de notre interview, à savoir comment ne pas rater le train des énergies renouvelables. Parce que ces énergies renouvelables, l'Afrique en a le potentiel. Le soleil est là, le vent est là, l'hydrogène est là. Alors, comment réussir un mix énergétique en valorisant les ressources fossiles énergétiques et en même temps en exploitant et en profitant des énergies renouvelables, Adama Gueye?
Mais cela demande à la fois du courage et de la vision. Le courage, c'est de se dire, nous ne pouvons pas continuer à juste dépendre des énergies fossiles. Leur ère est en train de disparaître. On sait que les énergies fossiles, c'est vers la fin du 18e siècle, au 19e siècle, qu'on a commencé à en exploiter. Les premiers gisements de pétrole, notamment à Titusville, en Pennsylvanie, ont été découverts en 1859, en août, par le colonel Drake, dans la région non loin de Philadelphie. Et ça a été porté par la deuxième révolution industrielle, la révolution de l'automobile, la révolution que l'on a connue avec tout ce qui est lié au transport, ça faisait que, et à l'électricité, ça faisait que l'énergie fossile était essentielle. Puis on est allé progressivement vers la troisième révolution industrielle, qui a promu le système de l'électronique, et aujourd'hui on est à la quatrième révolution industrielle. L'Afrique doit savoir que le monde dans lequel nous vivons va changer et que les partenaires que nous allons avoir vont chercher à venir en Afrique pour prendre l'hydrogène, pour chercher notre solaire, pour chercher nos eaux, pour chercher l'hydrogène, l'ammoniac, etc. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut avoir le courage de comprendre que c'est une nécessité. Il faut avoir la vision de s'inscrire dans cette tendance lourde parce qu'il va y avoir un abandon des énergies fossiles. Or, ce que nous entendons des dirigeants africains, des pays qui ont encore des énergies fossiles, c'est-à-dire l'Occident et les pays arabes et autres, ils ont utilisé les ressources fossiles pour se développer. Nous, on va continuer de faire cette exploitation. C'est une erreur de s'accrocher au passé. Il faut aller vers l'avenir. Et donc l'Afrique, à cet égard-là, doit négocier avec le reste du monde pour que l'Afrique soit aidée à mettre de côté ses énergies fossiles dans le sous-sol et à exploiter ses énergies renouvelables dont elle a en quantité des ressources. Et c'est ça qui fera que l'Afrique pourra jouer le premier rôle, encore plus que ce qu'elle peut faire avec ses énergies fossiles. On a encore plus de ressources en énergie renouvelable qu'en énergie fossile. Si vous prenez l'exemple d'un petit pays comme la Hollande, les Pays-Bas gagnent 90 milliards d'euros par an de leur agriculture. Voyez-vous, ce sera 90 fois ce que le Sénégal attend de son hydrocarbure. C'est vous dire qu'il y a d'autres poches, d'autres niches à exploiter que de penser que ce que les pays arabes ont pu avoir pour devenir ces émirats pétro-gaziers qui font rêver, que cette ère-là est la seule ère à suivre. Il faut s'exposer à d'autres formes de savoir en suivant la quatrième révolution industrielle et en suivant la tendance lourde et définitive vers la mutation, vers la décarbonation des énergies à travers le monde entier. L'Afrique doit se mettre à jour.
L'Afrique doit se mettre à jour pour donc ne pas rater le train des énergies renouvelables. Merci à vous, Adama Gueye. Je rappelle que vous êtes expert dans le domaine des ressources naturelles.
Coémergence, l'invité.
Et nous parlons de la valorisation des ressources minières en Afrique et c'est avec l'ingénieur civil des mines et également ingénieur en propulsion aéronautique, cher Cissé. Comment faire en sorte que ce secteur devienne un levier d'industrialisation des économies africaines? Cher Cissé vient de publier un livre sur le sujet intitulé « Pour une révolution industrielle et minière en Afrique ». L'occasion donc de bien aller en profondeur sur cette question. Bonjour à vous, cher Cissé, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Baldé, et je vous remercie de m'avoir fait l'amitié de cette invitation. C'est un plaisir de parler de mon livre et puis d'expliquer un peu le contenu. Mm-hmm. Merci et bonjour.
Mm-hmm. Alors, avant d'en venir à votre livre, faisons le point aujourd'hui. Comment se porte ou quel est l'état de l'industrie minière en Afrique?
Actuellement, l'état de l'industrie minière en Afrique, je dirais, est plutôt faible, parce que aussi bien en termes d'investissement qu'en termes de revenus, alors que l'exploitation en elle-même est plutôt assez, je dirais, prolifique. Quand on regarde, par exemple, les investissements miniers en Afrique, d'habitude, ça gravite autour de 16% maximum des investissements globaux, c'est-à-dire la part relative de l'Afrique dans les investissements gravite autour de 16%, et 16% c'était en 2012. Sinon, sur les trois dernières années, ça, c'est plutôt dans les 10%, voilà, des investissements. Cela peut être expliqué par le fait que, par exemple, bon, en Afrique, on a plutôt une géographie qui est clément, je dirais, ou clémente, ce qui permet, n'est-ce pas, de réduire les coûts. Et aussi, il y a aussi le fait que le coût de la main-d'œuvre n'est pas très élevé. Tout ceci joue. Mais je pense aussi que les Africains n'investissent pas trop. Donc, on dépend particulièrement des partenaires étrangers pour venir investir en Afrique. Et souvent, cette exploitation minière n'est pas faite de façon équitable, puisque ça profite particulièrement à ces sociétés minières étrangères qui se taillent la part du lion au moment où les revenus pour les pays africains sont plutôt faibles et les populations aussi n'en profitent pas beaucoup, aussi bien sur le plan financier, alors que ce sont ces mêmes populations qui subissent, je dirais, les méfaits comme la pollution de leur environnement, le sol, l'eau, ou bien même l'expropriation de leur terre, parce qu'on ne peut pas faire l'exploitation minière sans déplacer des populations.
Mmh. Alors,
aussi bien même la faune.
Cela dit, quelles sont aujourd'hui les ressources minières les plus sollicitées, qui intéressent le plus les investisseurs étrangers en Afrique?
Voilà. Donc, si on fait, par exemple, la cartographie, n'est-ce pas, des ressources minières, on voit que l'Afrique a toute une variété, hein, que ce soit ce qu'on appelle le groupe des métaux platinés, le palladium, le platine, mais aussi la ressource, je pense, qui est la plus exploitée, c'est l'or. L'or, c'est vraiment, alors que l'Afrique n'en dispose pas beaucoup en termes de réserves, contrairement à d'autres ressources. Par exemple, si on regarde les données récentes de l'US Geological Survey, on voit que l'Afrique dispose de 80%, n'est-ce pas, des réserves de platine et de palladium, 80% ou presque, ou 79% des réserves de diamants, plus de 40% des réserves de manganèse, presque 40% pour le cobalt, qui est très en vogue récemment, avec particulièrement les voitures électriques. Et je vais y revenir. Et puis l'uranium aussi. Donc, il n'y a pas une symétrie entre la réserve et le nombre de projets actifs. Mmh. L'or, l'Afrique, malgré tout le bruit qui entoure l'or, l'Afrique ne dispose que de réserves d'environ 20% ou moins, je dirais même 17%.
Mmh.
Et pourtant, en termes de projets, on a plus de 500 projets aurifères en Afrique. Alors que peut-être pour le manganèse, par exemple, on a 40% des réserves ou 45% des réserves, alors qu'on n'a que 30 projets sur tout le continent.
Mmh. Mmh.
Je pense que ça dépend de l'offre et de la demande. Selon les prédictions, moi, je vois que des ressources comme le cobalt ou comme le cuivre, voire même la bauxite qui est utilisée pour l'aluminium, vont faire des percées, parce qu'il y a ce qu'on appelle la transition énergétique et l'Afrique dispose de presque 30% des réserves pour ces minéraux qui sont riches en transition énergétique. C'est-à-dire qu'il y a tout un débat actuellement sur comment faire pour réduire les émissions de carbone. Donc, l'objectif de cette transition, c'est de faire qu'en 2050, il y aura 0% d'émissions de carbone. Et pour cela, il faut miser sur les voitures électriques. Et l'Afrique a une très grande richesse pour ces minéraux qui seront utilisés dans les batteries de ces voitures. D'ailleurs, j'ai même expliqué pourquoi pas l'Afrique devra développer une certaine industrie, hein, automobile, ou sinon même une industrie que j'ai appelée la Green Energy Valley, ou bien Cobalt Valley, ou Lithium Valley, que j'ai un peu tiré de la Silicon Valley des États-Unis.
Mmh.
Et dans cette vallée, particulièrement autour de la région du Congo, on pourra fabriquer des batteries pour les voitures électriques.
Mmh. Alors,
mais cela va demander bien. Okay, allez.
Mmh. Alors, donc tout ceci nous pousse à plonger au cœur du sujet de votre livre, c'est l'industrialisation, hein, ce levier d'industrialisation. Alors, selon vous, comment faire en sorte aujourd'hui pour que ces ressources minières soient source d'industrialisation en Afrique?
Voilà, ça je pense que c'est vraiment la question principale que tout le monde se pose. L'Afrique a une richesse minérale, mais les jeunes ont du mal à trouver du travail. L'Afrique est un continent pauvre, alors que certes c'est pauvre sur le plan économique, mais on a tout pour être un continent riche et avoir le même niveau d'industrialisation. Si on regarde un pays comme la Corée du Sud s'est industrialisée en à peine 3 décennies. Je pense que tout le monde connaît la guerre de Corée. À la fin de la guerre de Corée, ce pays était, je dirais même, plus pauvre que certains pays d'Afrique. Aujourd'hui, la Corée produit des voitures, produit les grandes entreprises, que ce soit en microélectronique, Samsung, Kia, LG, tout ça sont des géants. Et ils se sont développés grâce à leur industrialisation qui recrute plus de 25% de la population active. Donc, il y a ce qu'on appelle la domestication des ressources. Parce que quand on veut faire un développement industriel et technologique, il y a un paramètre qui est incontournable. Ce sont les ressources minières. Vous avez beau avoir de bonnes idées, tant que vous ne les transformerez pas en produits, ça ne sert à rien. Et pour les transformer en produits, il faut quand même avoir la matière première. Et l'Afrique a cette chance, je pense, comparée à d'autres régions, qui sont obligées d'aller chercher ces matières premières-là. Donc, tout ce dont l'Afrique a besoin, c'est de s'approprier de la technologie existante. On n'est plus à l'époque de la première révolution industrielle ou de la deuxième où il fallait tout inventer les machines. La technologie existe déjà. Donc, tout ce dont l'Afrique a besoin, c'est de domestiquer ses ressources, d'avoir des politiques d'industrialisation et d'entrepreneuriat qui vont faciliter la prolifération, n'est-ce pas, des PME et PMI, qui pourront, avec l'assistance, n'est-ce pas, des différents gouvernements, devenir des géants, mais aussi investir dans la science, dans la technologie. Si on prend un pays comme le Sénégal, presque 80% des bacheliers sont des littéraires. Donc, et si on veut le développement industriel, je pense qu'il faut augmenter le nombre de scientifiques, aussi bien au niveau des élèves que des chercheurs, parce que le développement industriel va reposer sur l'innovation, et l'innovation va reposer sur la recherche. Donc, il faut vraiment augmenter le nombre de travailleurs scientifiques, domestiquer les ressources, c'est-à-dire créer des sociétés nationales, des entreprises publiques, et s'assurer que la gestion sera, n'est-ce pas, responsable pour éviter certaines erreurs, mais aussi créer un climat des affaires favorable qui va attirer les investisseurs. Et dans ce cas, je pense qu'un pays comme le Sénégal ou le Ghana, avec leur stabilité politique, ont une chance, même si on a du mal à l'exploiter à bon escient. Et aussi, il faudra investir dans la santé. Voilà. Mmh. Parce qu'il faut que les travailleurs soient en bonne santé,
mmh,
et qu'ils soient, mmh, n'est-ce pas, dans les conditions physiques de pouvoir travailler.
Mmh.
Et en ce sens, je pense que j'ai même cité l'exemple du Maroc, hein, à plusieurs reprises dans le livre, à 2 ou 3 reprises.
Justement, on allait poser cette question-là. On sait que le Maroc aussi dispose d'énormes ressources. On pense au phosphate, entre autres. Comment aujourd'hui cet exemple-là peut être dupliqué dans d'autres pays du continent?
Voilà. Moi, je pense que le modèle marocain, c'est vraiment un modèle. Je ne le dis pas parce que je suis une radio marocaine, mais je l'ai écrit dans le livre que le Maroc peut servir d'exemple à beaucoup de pays africains. D'ailleurs, j'ai même fait une étude comparative sur les industries chimiques du Sénégal qui exploitent le phosphate au Sénégal, et je l'ai comparé au Maroc. C'est-à-dire qu'au début, le Sénégal dominait même l'industrie du phosphate en Afrique, avec arrivé en première position, mais il y a eu des mauvaise gestion, il y a eu une mauvaise privatisation, ce que j'ai appelé recapitalisation ou capitulation. Et d'ailleurs, en ce sens, le Maroc même, il y avait même une entreprise marocaine qui s'appelle Sharaf Corporation, qui avait proposé de reprendre le projet. Il avait proposé une meilleure gestion. Mais à l'époque, le Sénégal avait déjà signé un contrat de longue durée avec le partenaire indien IFCO, qui lui proposait un plan de recapitalisation qui allait faire perdre au Sénégal la majorité des parts, alors que le Maroc proposait une autre alternative bien plus avantageuse. Donc le Maroc contrôle son phosphate, qu'il vend à prix d'or, là où le Sénégal aujourd'hui a perdu complètement le contrôle du phosphate. C'est entre les mains des entités étrangères qui exportent presque la quasi-totalité de la production du phosphate. Même pour obtenir des engrais pour les agriculteurs, l'État sénégalais est obligé d'injecter des milliards de francs CFA. On parle vraiment entre 50 et 100 milliards de francs CFA. Donc, en moyenne, plus de 80 millions d'euros chaque année. Alors que rien que cet argent aurait pu être utilisé pour se réapproprier les industries chimiques du Sénégal.
En tout cas,
en outre,
oui, voilà, assez rapidement, voilà. On arrive déjà.
Voilà, exactement. Assez rapidement toujours. J'ai même fait une petite comparative entre le Maroc et le Congo. Le Congo produit 70% du cobalt. Mais cette production repose principalement sur le travail des enfants qui se ruinent, la santé, qui sont mal payés au lieu d'aller à l'école. Alors qu'au Maroc, 80% de cette production du cobalt au Congo est exportée en Chine. C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de choses à y gagner. Alors qu'au Maroc, quand l'entreprise coréenne LG Chemical était venue, et je pense chinoise Haiyu, quand ils sont venus, le Maroc a dit non. On peut vous laisser exploiter notre pétrole, mais à une condition. Vous allez créer une usine locale de transformation de la matière première. Et ça, je pense que c'est ce qu'on appelle la domestication des ressources, parce que ça permet non seulement de créer des emplois salariés, avec cotisation à la retraite, assurance maladie et tout le confort qui va avec, mais ça permet aussi de renflouer les caisses de l'État avec des recettes fiscales en termes d'impôts sur les sociétés, taxes sur les exportations, ainsi de suite.
En tout cas, c'est important et d'ailleurs, c'est à retrouver dans votre livre que je recommande vivement, donc intitulé « Pour une révolution industrielle et minière en Afrique ». Merci. Merci à vous, cher Cissé. Je rappelle que vous êtes ingénieur civil des mines et ingénieur en propulsion aéronautique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, M. Baldé, pour cette invitation.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.